Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. En réunion, à distance, nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Sugier. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Baptiste, donc tu fais partie de la compagnie Le Centre Imaginaire. C'est un centre qui se situe du côté de Chabeuil, je crois.
Exact, ouais. On a le centre à Chabeuil, c'est les bureaux de la compagnie.
Et qui sont plutôt, c'est une compagnie qui travaille justement à l'élaboration, au soutien, à la création artistique et surtout des arts vivants.
Ouais. Ouais, on fait de la création un peu tout terrain, c'est ça.
Voilà, tout terrain justement. Et d'ailleurs, vous mettez en avant votre travail qui s'inspire du réel et qui permet ainsi de créer des passerelles envers les imaginaires. Et donc, vous explorez pour ça la réalité. Est-ce qu'on peut peut-être définir pour vous ce qu'est la réalité ?
Je ne sais pas ce que c'est la réalité exactement. Elle doit être différente pour les uns et les autres. Ce qu'on veut dire par là, c'est que nous, on aime bien collecter le réel, l'enregistrer, par exemple en prenant et en capturant le son d'une scène qu'on peut constater, un peu à la manière de gens qui feraient du documentaire. Et on se sert de cette matière-là, par exemple sonore, pour ensuite recréer des histoires, aller plus vers l'émotion dans une écriture théâtrale. Voilà. Donc on part du réel pour aller vers la fiction, on pourrait dire ça comme ça.
Et donc tu es là aussi pour nous parler de Né à Né, une proposition qui va être à voir au Théâtre Les Airs de Die, et ça sera ce samedi 26 novembre à partir de 15h. Donc une expérience multisensorielle, comme c'est présenté, qui fait prendre conscience du pouvoir de l'odorat et redore le blason de ce sens méconnu chez l'homme. Vous étiez déjà venu en janvier pour nous parler de ce spectacle, et ensuite vous aviez le désir de revenir dessus parce que il y a eu peut-être une mutation qui s'est opérée.
C'est-à-dire qu'on est venu faire une résidence ici à Die, et donc on avait proposé dans ce cadre une sortie de résidence, et on avait évoqué, je crois, les quelques dates qui suivaient à la Gare à Coulisses ou à la médiathèque de Cré pour parler des choses dromoises. Donc on a abouti ce spectacle, le chemin de création est terminé, on l'a joué à Avignon cet été. Et donc, on a la chance de revenir dans la programmation là, du Théâtre Les Airs, ça nous fait bien plaisir, pour jouer deux représentations donc, qui seront le dimanche 27 à 15h et à 18h, puisque, comme tu l'évoquais, là, le samedi 26, effectivement, ça démarre à 15h, mais avec une petite conférence à la médiathèque de Die, c'est-à-dire une rencontre avec deux chercheuses avec qui on a collaboré pour la création de ce spectacle, de chercheuses du CNRS qui bossent dans un labo qui s'appelle Cerveau, Mémoire et Olfaction. Nous, on sera là aussi, parce qu'on arrive pour installer le spectacle et jouer le lendemain. Et du coup, l'idée, c'est de rencontrer les habitants de Die qui le souhaitent pour parler des odeurs et pour parler des odeurs dans le spectacle.
Alors, ces deux chercheuses sont nommées, hein, c'est Nathalie Buenviso et oui. Alexandra Vérac.
Alors, il n'y aura que Alexandra, du coup, qui sera présente samedi à 15h, malheureusement. Mais c'est bien avec ces deux-là, en tout cas, qu'on a travaillé pendant 3 ans à la création du spectacle.
Et vous pourriez peut-être nous expliquer, d'ailleurs, comment c'est installé, cette collaboration, sur quel secteur ou sur quel domaine précis vous avez œuvré ensemble ?
Oui. Ben, il se trouve que ces deux chercheuses au laboratoire connaissaient notre travail dans la compagnie, en particulier par le biais du musée itinérant de Germaine, qui a pas mal tourné en Drôme aussi, pour ceux qui connaissent. Et elles avaient envie, elles, de sortir un peu du cadre de la fête de la science, dans lequel elles sont un petit peu parfois coincées, ou en tout cas un cadre qui leur permet pas trop de rencontrer le public différemment d'un format un peu d'atelier. Et du coup, le croisement avec une équipe artistique, c'était peut-être l'occasion pour elles de réinventer cette rencontre entre le public et les odeurs. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'elles nous l'ont présenté. Et sur cette chose-là, on s'est beaucoup rencontrés. On est allé avec l'équipe de créa du Centre Imaginaire, donc Clémentine Cadoret, Christina Firmino, au son et à la scénographie. On est allé au laboratoire plusieurs fois pour les rencontrer là-bas, sur place, voir comment elles bossaient, avec quel dispositif, sur quoi elles bossaient, sur quel sujet. Et ça a donné lieu à pas mal d'échanges. Et ensuite, c'est elles, les chercheuses, qui sont venues lors de résidences voir un peu comment nous, on prenait en charge tout ce qu'on avait compris, digéré de ces rencontres-là. Et on a testé des premières expériences sur des cobayes, quoi. Les premiers publics, c'était vraiment des cobayes pour voir comment le son, les odeurs, la lumière pouvaient agir ensemble dans une expérience olfactive.
Donc, elle venait aussi avec des conseils techniques, en quelque sorte, pour préparer votre spectacle. Et vous mettez en avant surtout l'aspect olfactif, hein, de nos sens, avec ce spectacle nez à nez. Alors, quel a été l'apport concret de ces scientifiques dans ce que vous avez proposé?
Il est à pas mal d'endroits en fait. En tout cas, je crois qu'elles ont déjà un socle de connaissances qui est puissant. Et on va dire que nous, la traduction qu'on fait, c'est qu'on fait ressentir des connaissances scientifiques. Le fait qu'elles travaillent, elles, sur des dispositifs d'expérience au sein de leur laboratoire, sur le comportement des souris ou sur le lien entre la respiration du cerveau et les odeurs chez l'homme, ce genre de choses nous ont appris aussi une manière de faire expérience ou comment elles pouvaient développer de la connaissance en mettant en place des dispositifs. Et du coup, on a découvert un peu leur manière de travailler et ça nous a inspiré pour nous imaginer comment on pouvait prendre un spectateur et le mettre dans une disposition pour l'expérience. Donc, du coup, comment on allait prendre cette personne, son état, et la faire plonger rapidement dans une proposition qui lui permette de ressentir le pouvoir des odeurs. Donc, le vrai pouvoir des odeurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport magique dans ce spectacle, puisque le pouvoir des odeurs, c'est son pouvoir d'évocation, c'est ce qui nous relie du coup à notre mémoire, à nos souvenirs, mais aussi à une faculté à imaginer, à s'évader. Et donc, les odeurs ont une vraie influence sur notre cerveau, quelque chose qui pourrait être vérifié, on va dire, scientifiquement, validé scientifiquement, mais qu'on peut ressentir d'un point de vue émotionnel. Et c'est ce que ce spectacle essaye de proposer comme expérience, c'est-à-dire de vraiment faire un voyage sensoriel, existentiel. En utilisant les odeurs comme drogue pour nos cerveaux, quoi. Vous voyez?
Donc, d'un côté, des chercheuses du CNRS, hein, si je comprends bien, et vous-même, créateur de spectacles, êtes aussi dans l'expérimentation, dans la recherche de l'expression. Est-ce qu'il a fallu, entre ces deux parties, trouver une sorte d'osmose dans ce travail?
Ça s'est fait vraiment naturellement, dans le sens où je crois les chercheurs, les chercheuses ont une capacité à être dans l'abstraction qui est très très forte, c'est-à-dire à développer de la connaissance sur des sujets qui leur appartiennent, qui sont souvent des sujets de thèse qu'elles vont développer de plus en plus, de plus en plus. Et donc du coup, la manière dont on a, nous, de travailler, en tout cas de leur retour, est pas similaire exactement. Mais elles ont adhéré tout de suite. Il n'y a pas eu de distance, en fait. Et c'est pour ça que je crois que c'était une belle rencontre aussi.
Ça les a motivés. Et d'ailleurs, est-ce qu'elles-mêmes vous ont confié ce désir de développer cette sorte d'échange entre l'expression artistique et la recherche scientifique?
Je crois qu'elles aiment bien, quelque part, rester dans leur place de chercheuse, mais que l'objet qu'on a créé ensemble leur permet, souvent à l'issue des représentations, elles viennent rencontrer le public. Ou alors lors de conférences, on va parler des odeurs. Et c'est ce qu'elles nous disent, elles, c'est que les échanges sont beaucoup plus fournis, intéressants, vont plus loin quand le public est en lien avec cette expérience artistique qu'on propose. Avec leurs odeurs habituelles dans le cadre d'ateliers, où on est plus sur des choses comme le loto des odeurs ou des trucs plus simples comme ça, elles ont pas la même qualité d'échange. Et ça leur plaît bien.
Et d'ailleurs, vous-même, ça vous a certainement enrichi pour ce spectacle. Vous avez noté une grosse différence entre ce qui s'était passé en résidence en début d'année et puis le résultat qui sera proposé.
Ah bah oui, ça a mûri. Ça a mûri aussi parce que ça a beaucoup joué depuis la résidence à Die. En particulier à Avignon, là cet été, on a joué 23 fois de suite. Donc il y a des choses comme ça qui font que dans une forme de spectacle, on gagne un petit peu en maturité, en musclant le jeu et en gagnant un peu en fluidité dans le déroulé du spectacle. Donc, je dirais que c'est ça l'écart principal qu'il peut y avoir entre ces deux moments.
Et donc, on va peut-être présenter aussi comment sera amené le public dans ce lieu. Est-ce qu'il est déjà prédisposé avec des accessoires, des appareils peut-être sur la scène?
Alors, je vais garder un maximum de mystère par rapport à ça, parce que c'est bien de plonger dans l'expérience sans savoir exactement ce qu'elle va être. Mais je peux dire schématiquement que le spectacle est en deux parties, avec un accueil du coup plutôt théâtral et puis une deuxième partie qui est à proprement l'expérience. Et en termes d'outils, de comment vont être diffusées les odeurs, tout ça appartient à la magie, et ce sera révélé aux curieux qui se déplaceront. Je crois qu'il reste quelques places, mais pas beaucoup. On m'annonçait ce matin qu'il y avait déjà 24 places sur les 30 qui étaient prises pour celle de 18h. Il doit en rester la moitié seulement pour celle de 15h.
Voilà, je rappelle, hein, il y aura deux séances dimanche 27 novembre, une à 15h et l'autre à 18h. Et puis, ce que je voulais savoir, il y a donc ces deux parties, l'aspect théâtral et puis ensuite l'expérience. Est-ce qu'il y a une troisième partie, celle du retour du public sur ses impressions?
On le faisait beaucoup en résidence. On a mis en scène quand même quelque chose qui permet de sortir de l'expérience et puis de revenir et d'avoir un temps ouvert d'échange avec le public, mais informel. C'est pas quelque chose qu'on organise vraiment comme une table ronde que j'aimais bien appeler les expériences olfactives anonymes, où du coup tout le monde se retrouvait, chacun pouvait partager son expérience. Ça, on l'a beaucoup fait nous parce qu'on en avait besoin pour comprendre ce que le public ressentait, si on avait mis trop d'odeurs, pas assez, si le voyage avait bien fonctionné, si voilà, ce genre de choses. Ça nous a permis de nous ajuster. Et aujourd'hui, on le fait moins, ou c'est plus dilué. Voilà.
Ça veut dire que le public ne peut exprimer ses impressions, ses ressentis dans l'essence même du spectacle, de l'essence même du spectacle, ses impressions.
En tout cas, pendant le spectacle, le public est amené à recevoir du coup tout ce qui est dit par les mots ou par les sens. À l'issue du spectacle, comme je disais, il y a un temps convivial et informel, mais qui est pas une table ronde. Voilà, c'est un peu à la libre participation, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené justement à cette idée d'un spectacle olfactif, pardon, est-ce que par la suite vous serez amené aussi à proposer d'autres sens?
En tout cas, la rencontre avec une des deux chercheuses a été fondamentale là, pour la naissance de ce spectacle. À partir du moment où j'ai connu son objet d'étude, je crois que personnellement, l'idée m'a pas quitté pendant 4 ans. Et je crois qu'il y avait un goût assez fort pour moi d'imaginer, d'aboutir une forme de spectacle que j'avais jamais vécu moi en tant que spectateur. Ou en tout cas, j'avais des exemples enfants du péplum, du royal de luxe, avec des énormes machineries à fumée, etc., à odeur. Mais finalement, les exemples sont assez rares parce que souvent, comme c'est compliqué en fait de faire du vrai théâtre olfactif, on va dire, beaucoup de compagnies abandonnent pour des raisons, on va dire, techniques. Donc il y avait un côté défi comme ça. Et après, par ce spectacle, par cette expérience, nous, au sein de la compagnie, on a acquis une sorte d'expérience sur le domaine du sensoriel, sur le travail des sens, donc sur le travail des couleurs, sur le travail de la chaleur, du toucher, sur le travail des odeurs, sur une qualité aussi de son en direct ou enregistré. Et je crois que tout ça aura forcément une influence dans la suite de notre travail. Donc la place des odeurs sur les prochaines créations, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a comme une patte qui s'est un peu forgée, je sais pas, je dirais ça comme ça, par ce spectacle-là.
Cet aspect de proposer des odeurs au public, on en avait parlé en début d'année déjà, c'est chacun peut catégoriser une odeur en fonction de son existence aussi, de son vécu. Est-ce que il y a forcément peut-être des différences de la perception d'une odeur et qui sont parfois exprimées peut-être aussi?
C'est clair qu'il y a presque autant de manières de sentir que de gens parce qu'on n'a pas les mêmes facultés olfactives, on n'a pas les mêmes nez. Il y en a qui vont sentir beaucoup d'odeurs, qui sont capables, sur une dizaine qui seront présentées, d'en identifier 5 ou 6, d'autres seulement 2. On n'a pas la même sensibilité aussi, qu'on soit enfant ou adulte, mais entre adultes aussi, il y a une variété presque aussi nombreuse que de gens de sentir. Donc c'est à la fois notre faculté, c'est aussi notre expérience, ça peut être notre métier qui joue sur notre capacité à sentir. Et puis ensuite, une odeur, la même odeur ressentie par 1000 personnes, va pas être associée au même contexte forcément, au contexte émotionnel, parcours de vie en fait. Et donc, si moi je lance une odeur dans le spectacle en me disant je vais faire connecter les gens à un souvenir précis, je vais me planter a priori parce que je vais projeter ma propre expérience en imaginant que c'est celle des autres et ça risque de pas marcher. Donc, on travaille plutôt sur le flou, c'est-à-dire une évocation avec une odeur, un son, une lumière, une couleur qui va permettre de faire naviguer le spectateur dans une émotion ou un souvenir qu'on va essayer, nous, de mettre en scène, mais sans être trop précis. Voilà, c'est ça que je voudrais dire.
Est-ce que justement ces odeurs, ces souvenirs de ces odeurs n'émanent pas de la partie enfant, de l'enfance de chacun?
En tout cas, souvent, on a cette chose de la mémoire olfactive, de la Madeleine de Proust, je sens une odeur et d'un coup, ça me ramène à un souvenir très, très lointain que j'avais complètement oublié dans ma vie et qui d'un coup me revient de manière très nette. Et ça, les chercheurs nous ont appris que ça venait certainement du fait que quand on se rappelle d'un souvenir par l'odeur, quand c'est l'odeur qui nous ramène dans un souvenir, souvent, c'est un souvenir qui est moins souvent rappelé. C'est-à-dire que dans tous les souvenirs qu'on a, À chaque fois qu'on s'en rappelle, généralement, on les modifie. Et c'est comme si on mettait plein de vignettes de diapos les unes derrière les autres. Et à chaque fois qu'on se rappelle d'un souvenir, on va le modifier un petit peu. Et dans le cadre de souvenirs olfactifs, souvent, c'est des souvenirs qu'on a moins souvent rappelés à notre mémoire. Et donc, ils apparaissent comme très nets. Ça fait comme un flash, un instantané. On revoit la scène où on était placé il y a 15 ans d'un coup parce que l'odeur nous a ramenés à cet endroit. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour ceux qui auront suivi ma pensée, j'espère. Sinon, on en reparle à 15h à la médiathèque
Oui, il y aura
samedi
cette
prochain,
conférence
avec
de.
les chercheurs qui seront peut-être plus précis que moi là-dessus.
Et puis, pendant ce spectacle, j'avais envie de savoir, il y a les bonnes et les mauvaises odeurs. Est-ce que vous jouez avec ça aussi, pour peut-être soit rendre plus léger ou parfois plus grave le spectacle?
Oui, il y a, bon, on a bossé donc avec une parfumeuse qui s'appelle Laurence Fanuel, qui vit et travaille à Grasse. Elle a son laboratoire là-bas. C'est classe d'avoir une parfumeuse qui vit et travaille à Grasse, forcément. Et elle a fait une partition du coup olfactive qui permet que les odeurs passent bien les unes après les autres. Et puis c'est aussi il y a, je dirais, un système de points et de contrepoints. Donc on peut travailler sur l'agréable et le désagréable, sur le j'aime et le j'aime pas, sur des odeurs qui sont cohérentes par rapport à ce qu'on entend ou ce qu'on sent, ou alors travailler aussi sur des choses qui sont incohérentes. En tout cas, on n'est pas dans un registre, de spectacle où les spectateurs sont amenés à essayer de deviner ce qu'ils sentent. On est plus, dans, qu'est-ce que je ressens, quand je sens.
Et puis il y a des odeurs qu'on peut détecter et parfois des molécules qui dégagent très peu d'odeurs. Et est-ce qu'il y a aussi une échelle d'intensité de ces odeurs avec lesquelles vous jouez?
Non, l'échelle d'intensité, c'est plutôt essayer d'envoyer une odeur qui permette non pas de satisfaire tout le monde, mais en tout cas de ne pas exclure ceux qui seraient trop sensibles, par exemple. On travaille pas trop sur un volume d'odeur qui viendrait saturer du coup la pièce, et parce que le risque en faisant ça, c'est que c'est comme quand il y a trop de pollution dans la rue, le nez se sature et après il sent plus rien. Il se met en protection, quoi, un peu envahi. Donc il y a des odeurs qui sont fortes, mais elles sont fortes parce qu'elles sont comme ça, mais c'est pas en quantité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, voilà.
Vous êtes donc le créateur de ce spectacle, Jean-Baptiste. Est-ce que vous vous êtes documenté aussi sur cette notion de l'odeur? Est-ce que vous avez épluché quelques données scientifiques ou peut-être lu un peu d'histoire sur ce sens?
Ben, il y a plein de bouquins intéressants à ce sujet. Il y a le miasme et le parfum, ou le parfum et le miasme. Oh, celui-là, ça fait longtemps. Il y avait un livre super qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle L'art olfactif contemporain, parce qu'il traitait vraiment de plein d'expériences dans différents domaines de l'art de l'art olfactif dans les odeurs, en particulier dans le théâtre. Donc ça m'avait bien plu. Dans l'art contemporain aussi, beaucoup plus. Et puis, ça m'a permis d'apprendre des choses sur les cérémonies du Kodo, du coup, qui se déroulent au Japon, qui sont un peu un des trois rites millénaires japonais autour d'un art olfactif où on brûle des bâtons d'encens pour en faire des haïkus, pour faire simple. Et puis, oui, il y a, bah oui, on s'est plongé dans la littérature parce que moi, c'est clair que j'ai fait ma part là-dessus. Mais il y a vraiment un trio de créateurs avec Christina Firmino du coup à la réalisation son et puis Clémentine Cadoret à la scénographie. On a vraiment été trois à se plonger dans le monde des odeurs et ça nous a embarqué. Ça a mis une grande plage dans notre vie, quoi.
Il est préférable de ne pas être enrhumé pour ce spectacle ou.
Ouais, alors il est préférable de ne pas être enrhumé parce que sinon on sent rien. Après, ça peut être aussi intéressant quand même de venir parce que l'expérience est multisensorielle et donc du coup, Puis même, c'est drôle parce qu'il y a parfois des gens qui sentent lors de spectacles, le nôtre ou d'autres, des odeurs qui ne sont pas présentes parce qu'on a une faculté parfois à sentir des odeurs sans qu'elles ne soient là. En tout cas, ce qui serait bien, c'est de ne pas venir parfumé parce que parfois on va au spectacle et puis on se fait beau et puis du coup on se met un petit coup de parfum, mais à ce moment-là, ça peut être plutôt une gêne. Non, pas forcément pour soi, mais pour les autres spectateurs. Du coup, s'il y avait un conseil à donner, ça pourrait être celui-là.
Et puis il y a aussi l'aspect où le public a les yeux masqués, hein.
Alors ça, c'est sûr que l'expérience en elle-même se vit les yeux masqués pendant un temps assez long, à peu près 35 minutes. Pardon. Et donc, on coupe la vue. Parce qu'on a tendance, quand on sent quelque chose dans la rue ou dans la vie en général, à vérifier et à valider avec les yeux que ce qu'on sent, c'est bien ce qu'on voit. Ce qui peut être un leurre aussi. Et en tout cas, cette primauté de la vue sur le sens olfactif, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas développé une grande faculté olfactif. Donc couper la vue, ça nous permet de remettre un peu l'attention sur ce qu'on ressent et sur le nez en particulier.
Justement, vous avez certainement échangé avec ces chercheuses. Est-ce que est-ce qu'elles vous ont indiqué la place de l'odeur dans la société? Est-ce qu'elles là, vous me dites que il y a une moindre perception de l'odeur par rapport à d'autres époques? Est-ce qu'aujourd'hui l'odeur est moindre que celle d'hier, hein?
Il y a tout un champ un peu historique, voire psychosocial, de recherche autour des odeurs qui est passionnant, où on voit en gros une société qui est allée vers une hygiène, oh là, c'est dur à dire, une hygiénisation de l'espace public. On a un peu chassé les mauvaises odeurs parce qu'elles pouvaient être liées, soit de manière vraie ou fausse à des maladies. C'est un peu comme le mot empesté qui vient de la peste, qui veut dire porter la peste sur soi. On comprend par là un petit peu ce qui a pu se passer à cette époque-là. Donc on a chassé les mauvaises odeurs aussi corporelles. Avant étaient par exemple très appréciées les odeurs du travailleur, du mec qui avait bossé, etc. Alors qu'aujourd'hui elle peut être dépréciée. C'est quelqu'un qui sent mauvais ou qui sent trop fort ou qui aura une mauvaise hygiène. Donc il y a une évolution un peu de notre rapport aux odeurs. Et puis il y a eu un mouvement qui est un peu la naissance de la parfumerie avec l'essor du coup des odeurs aussi dans le marketing. Donc à la fois on a enlevé des odeurs et puis on en a rajouté d'autres pour diverses raisons. Voilà, donc ça c'est intéressant de le traiter. Ce qui est vrai, c'est que nous c'est pas exactement ça le sujet du spectacle, mais ce qui nous a frappé, c'est que l'art olfactif en lui-même, c'est-à-dire d'avoir une vraie relation aux odeurs, presque un rapport esthétique aux odeurs, comme on peut avoir quand on va dans un musée, cette chose-là n'existe pas dans nos vies. Et du coup, cette place-là de l'art olfactif dans notre monde, est très réduite. Et du coup, ça donnait d'autant plus d'importance à essayer de faire quelque chose.
Je reviens un peu sur l'ensemble de nos sens. Celui-ci, c'est l'olfactif. Est-ce que à l'avenir, vous auriez un travail aussi sur l'ouïe, la vue, peut-être à bouleverser ses perceptions dans le cadre d'un spectacle?
Alors, c'est pas sur la table, mais par le travail avec les odeurs, on a rencontré des non-voyants ou des malvoyants pour essayer de comprendre quel était leur rapport au spectacle vivant, comment ils ressentent l'espace, comment ils ressentent le temps, peut-être différemment. Et puis, on a travaillé plus spécifiquement sur les odeurs. Ça nous a donné envie du coup de mettre le public dans cette configuration où ils ne voient pas et où du coup ils sont pris, immergés dans les scènes qu'on leur propose. Et je trouvais que ça, c'était une manière intéressante de voir le spectacle vivant qui mériterait d'être développé. Mais là, les prochains projets de création ne sont pas spécifiquement sur l'essence.
Et puis, on rappellera quand même que c'est donc Laurence Fanuel qui a créé ses parfums pour ce spectacle avec son atelier Rosa Rose à Grasse. Justement, l'avenir des prochaines propositions du Centre Imaginaire, est-ce qu'il y a quelques indices?
On a envie de travailler sur les peurs chez les enfants. Du coup, ça, c'est un projet de création qui est pour l'instant sur le papier, mais qu'on aimerait démarrer en 23 à partir d'un travail de collecte et de rencontre avec des enfants de 6 à 10 ans sur les peurs chez eux. Qu'est-ce que c'est? Où ça commence? À quel moment? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? De s'intéresser vraiment à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils vivent dans ces moments-là, pour pouvoir retraduire après tout ça dans un spectacle qu'on aimerait faire dans une boîte noire, dans un théâtre. Et puis après, bon, il y a un projet qui est en gestation d'écriture sur les liens franco-algériens, donc quelque chose d'assez différent, qui interroge plus mes racines familiales.
Voilà, en nous approchons de la fin. J'indique aux auditeurs que pour se renseigner sur les spectacles, il peut se rendre sur le site internet du théâtre Les Airs. En tapant sur Google, à mon avis, on trouvera facilement le site. Et en tout cas, je vous remercie. D'ailleurs, le Centre Imaginaire, comme le nom l'entend, est-ce que c'est aussi un lieu?
Non, non, pas vraiment. On n'a pas de lieu. Idéalement, comme toutes les compagnies, on aimerait avoir un lieu pour pouvoir répéter quand on a envie, avoir un atelier à côté pour bricoler. Et puis, pour l'instant, nous, on a juste un lieu de stockage et un bureau à Chabeuil. Et c'est déjà pas mal.
Jean-Baptiste Sugier, je vous remercie d'être venu nous parler donc de ce spectacle Nez à Nez, un spectacle olfactif qui aura lieu donc au théâtre Les Airs sur 2 journées. Hein. Le premier, ce sera un samedi 26 novembre avec une conférence de presse à la médiathèque. Et ensuite, la représentation le dimanche 27 à 15 et 18 h. Il est préférable d'ailleurs de réserver aussi.
Ben merci.
Jean-Baptiste Sugier, bonne soirée.
Ouais, merci. Merci, à bientôt.
Au revoir.